Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole tunes that filled the air. I dream of old Yanders in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? There's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Peut-être l'avez-vous compris en écoutant les premières notes de cette nouvelle épopée des musiques noires. Nous allons saluer cette semaine la mémoire du plus célèbre jazzman du XXe siècle, l'illustre et regretté Louis Armstrong. Mais plutôt que de vous conter sa destinée, nous avons décidé d'évoquer sa prime jeunesse avant qu'il ne devienne une icône afro-américaine. Et pour cela, nous avons convié Claire Julliard. Soyez la bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un roman qui suit les premiers pas d'un gamin de la Nouvelle-Orléans dont l'enfance trépidante décidera de son avenir. Ce petit Louis, ou Little Louis,
voilà,
est le personnage central de votre récit, paru aux éditions Le Mot et le Reste, et qui nous ramène plus d'un siècle en arrière, dans les années 1910. D'abord, pourquoi avez-vous choisi de narrer cette période très spécifique de la vie de Louis Armstrong ? Était-elle mal documentée ?
Oui, d'une part, parce qu'on me réclamait de biographie, j'en ai fait une de Boris Vian, et j'avais plus envie d'écrire biographie, je suis écrivaine avant tout. Mais une chose m'intéressait, c'était ce personnage dont j'avais parlé dans un article. Et je voyais que quand je racontais son enfance, le peu que j'en savais, les gens étaient fascinés parce que son enfance est proprement incroyable. Et elle s'appréhende mieux peut-être par un roman que par... Les biographes se sont cassés le nez sur son enfance. Ils l'ont raconté, mais de façon à la Louis Armstrong, c'est-à-dire c'est un peu, ça part dans tous les sens, on ne sait pas si c'est vrai. Mais justement, je voulais rendre un petit peu ça... la couleur de sa vie, de ses débuts incroyables, quoi.
Comme vous pouvez l'imaginer, il nous a été très difficile de choisir les illustrations musicales, oui, de cette émission, car Louis Armstrong n'a pas encore enregistré de disque à l'époque à laquelle se situe votre roman. Nous allons donc tricher un peu en faisant allusion à la jeunesse d'un instrumentiste hors norme. Nous avons d'ailleurs ouvert cette émission avec « Do you know what it means to miss New Orleans ?» qui n'est pas un titre anodin, Claire Julliard, puisqu'il fait écho à son premier départ de la Nouvelle-Orléans, c'est bien cela ?
Oui, il a dû quitter la Nouvelle-Orléans. Il l'a emporté avec lui, dans son cœur. Enfin, il ne l'a jamais vraiment quitté. Il a un attachement incroyable pour la Nouvelle-Orléans. Malgré les conditions misérables de son enfance, pour lui, c'est un éblouissement parce que c'est là où il a découvert le jazz. Parce que c'est Louis, parce qu'il transforme tout ce qui est moche en beauté.
Bien avant d'embarquer sur le Dixie Belle, ce bateau qui remonte le Mississippi, donc vers ses premières aventures musicales, Louis Armstrong a déjà vécu 1000 péripéties, et notamment une arrestation le soir du réveillon 1912, qui sera déterminante.
C'est un enfant joyeux qui chante déjà dans les rues avec trois autres copains. Ils ont formé un petit quartet. Il traîne dans les rues de la Nouvelle-Orléans, dans ce quartier qui est extrêmement dangereux, fréquenté par les macros et les prostituées. C'est sûr que ça peut mal finir pour n'importe qui. Et puis là, il s'est fait prendre pour avoir fait l'andouille devant ses copains. C'est-à-dire, on tirait, c'est la tradition de la Nouvelle-Orléans, on tire des feux d'artifice. Et puis, ils n'avaient pas de pétard. Enfin, il est allé chercher, justement, une vieille pétoire d'un de ses beaux-pères, comme il les appelait, les petits amis de sa mère. Et puis, pour amuser ses copains, il a tiré des coups de feu en l'air. Vraiment, ce n'était pas bien méchant, mais c'est tout à fait interdit. Il a entendu des rires, puis plus rien, le grand silence. Et puis, il a vu une main se poser sur lui et on l'a emmené au poste. Et là, il a été très malheureux parce qu'il savait ce qu'il attendait, c'est-à-dire le refuge, cette espèce de prison pour enfants des rues.
Et alors, il y a beaucoup de personnages clés dans le développement artistique du petit Louis Armstrong. Diriez-vous que Peter Davis, qu'il rencontre au refuge, est le chaperon le plus important dans le cheminement artistique du Little Louis?
Oui, toute sa vie, il a cherché des figures de père, hein, puisque son père les avait abandonnées. Et voilà, il appelait tout le monde Pops. Avant que lui-même on l'appelle Pops, il appelait tout le monde Pops. Et il recherchait cette figure du père. Et au refuge, où les premiers jours, il sent qu'il est coincé là pour très longtemps et il est un petit peu déprimé, ce qui n'est pas dans son tempérament. Puis, il s'aperçoit qu'il y a une fanfare dirigée par ce Peter Davis, ce personnage très charismatique, très distingué.
Assez autoritaire au début.
Autoritaire, parce qu'il veut que ses enfants s'en sortent. Hein, et qui ne veut pas entendre parler de Louis Armstrong, qui représente pour lui la petite racaille qui vient des bas quartiers de la Nouvelle-Orléans. Il ne veut pas entendre parler de ce genre d'enfant. Il est quelqu'un de très digne, très... Bon. Et Louis mais voit en lui peut-être une figure paternelle, justement, qu'il admire. Et puis surtout, il veut absolument jouer d'un instrument. Donc, il fera tout pour l'attendrir. Et
le séduire.
Il parviendra parce qu'il attendrissait tout le monde. Il était tellement souriant et gai que tout le monde l'aimait.
Quelle place accordez-vous à la famille Karnowski dans l'épopée de Louis Armstrong?
Alors, Louis a passé son enfance à travailler. Dès l'âge de 6 ans, il charrie du charbon. Et après, il vendra des journaux, il fait 1000 travaux. Et puis, il va rentrer tout gosse comme ça au service des Karnowski, qui l'adoptent d'une certaine façon, de manière incroyable. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand même, c'était des Blancs. Très vite, il voit que cet enfant traverse les rues la nuit pour rejoindre sa famille, qu'il n'a pas de quoi manger, qu'il a souvent faim. Enfin bon. Et Madame Karnowski, Esther, commence à fourrer du pain azyme dans ses poches, à tout hasard. Puis elle lui dit « Mais tu peux venir dîner chez nous ce soir ?» Jamais un noir à l'époque dîne à la table des Blancs. Alors il y va, et puis ça va durer plusieurs années. Et c'est sa famille, il appelle ma famille juive. Toute sa vie, il a porté l'étoile de David autour du cou, en souvenir des Karnowski, aussi parce que, bon, c'est son enfance, enfin c'est tout, quoi, voilà. Et puis il avait une vision de la vie qui était universaliste. Il embrassait toutes les religions, le monde entier, c'est lui.
Comment avez-vous procédé pour restituer de manière romanesque l'atmosphère de l'époque, le quotidien du petit Louis, ses relations avec les Blancs, avec les adultes, avec ses proches? Est-ce que vous avez tenté d'alléger l'humeur très pesante de l'Amérique ségrégationniste d'alors?
Non, parce que c'est vu à hauteur d'enfant, ce qui fait qu'après de longs atermoiements, j'ai décidé de le faire parler, ce qui était peut-être un peu présomptueux, mais c'était la seule façon, c'était d'arriver à se mettre dans sa peau. À un moment, j'ai senti que c'était possible, et j'ai vu ça à hauteur d'enfant, en effet. C'est-à-dire qu'au début, comme il est dans une telle misère et qu'il est dans ce quartier, je ne dis pas qu'il ne fait pas attention à ça. Mais voilà, c'est que, comme dans toute expérience du Noir américain, il y a ce jour terrible où il découvre la ségrégation vraiment dans toute son horreur. C'est-à-dire, une dame vient le chercher. Il vit alors chez sa grand-mère, Joséphine, qu'il adore. Et sa mère, Mayanne, décide de le récupérer. Une dame vient le rechercher pour l'emmener dans un autre quartier. C'est un déchirement. Tous les deux pleurent, la grand-mère, Louis. Bon. Et puis, comme il est quand même... son caractère est comme ça, exubérant. Il court dans l'autobus pour se mettre dans les premières places. Et la dame lui crie « Louis, Louis, tu reviens, tu reviens ». Il voit qu'elle a blêmi. Enfin bon. Et puis, il voit la pancarte et il comprend l'horreur du truc. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir là. C'est le jour décisif où, dans la vie de tout noir américain de cette époque et d'après, ils vont découvrir les lois Jim Crow, ça s'appelait, les lois ségrégationnistes. Et leur vie change. Il y a un déclic qui se produit... Il va falloir qu'ils vivent avec ça.
Bien que la jeunesse de Louis Armstrong ait été très bousculée, vous parvenez à la rendre pétillante. Pensez-vous que Louis Armstrong, enfant, était si positif et enthousiaste?
Oui, c'est tout à fait son caractère, parce que je me suis quand même appuyée sur lui, ses lettres, ma vie à la Nouvelle-Orléans, son caractère. C'est un personnage qui est comme ça, il est totalement solaire. Il voit que le bon côté de la vie, ou disons qu'il prend ce qu'il y a de bon dans la vie, et surtout, c'est avant tout un artiste, donc il transmute la réalité. À la Nouvelle-Orléans, il a toujours aimé ce quartier chaud où il était, le quartier des Lanternes Rouges, on l'appelait à cause des prostituées, parce qu'il voit les musiciens, il voit la joie de vivre, il voit les gens qui jouent, il aime l'humanité, je crois que c'est vraiment un humaniste.
Il y a tout de même des allusions au racisme ambiant dans votre récit. Je pense par exemple au Roi des Zoulous, un titre honorifique décerné durant les carnavals de la Nouvelle-Orléans. Et Louis Armstrong fut l'un des élus, mais cette distinction lui a valu les critiques de ses contemporains. Pourquoi donc, Claire Julliard ?
La Nouvelle-Orléans est en Louisiane. Il y avait donc des tas de traditions. Le carnaval, par exemple, qui était un moment de fiesta absolue, où tout le monde se déguisait, on imitait des personnages célèbres, il y avait des gens avec des bicornes, enfin on se moquait de l'ordre établi. Et puis il y avait quelqu'un qui s'appelait le Roi des Zoulous, qui était sur un char, maquillé, etc., et qui jetait des noix de coco au public, qui ramassait ça, enfin c'était la folie. Tous les enfants nés à la Nouvelle-Orléans ont tous rêvé d'être le Roi des Zoulous. Sidney Bechet, qui vivait dans un autre quartier parce qu'il était créole, bon, a fini par avouer qu'il aurait aimé être le Roi des Zoulous. Mais quand Louis Armstrong est retourné à la Nouvelle-Orléans parce qu'on lui a proposé de l'être, alors il est monté sur son char avec la reine des Zoulous. Il était maquillé, ce qu'on appellerait aujourd'hui blackface, hein, c'est-à-dire les lèvres blanches, etc. Et il est paru dans les journaux comme ça. Et je crois que c'était dans les années 60. Enfin, en plein mouvement des droits civiques, les musiciens américains de l'époque, certains ont dit « Mais Louis fait n'importe quoi, c'est dégradant, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il fait le bouffon pour les Blancs. » Et lui, il a dit « Bon, écoutez, enfin, vous ne me comprenez peut-être pas, mais en tout cas, en attendant, je suis le premier noir à avoir fait la couverture du New York Times. »
Page 168, vous lui faites dire à Louis Armstrong la chose suivante. « Quand certaines personnalités ont vu les photos de moi maquillées comme ça, ils ont dit « C'est indigne, Louis Armstrong fait n'importe quoi.
Oui. »
Dizzy Gillespie a jugé dégradant de défiler en blackface tel que les Blancs nous ont représenté dans leur premier film de cinéma, en particulier Al Jolson dans Le Chanteur de Jazz. Assez violent quand même.
Oui, bien sûr, c'est ça, mais enfin, c'était dans un contexte où ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et puis de toute façon, je crois que la Nouvelle-Orléans, c'est un monde à part. C'est à ce moment-là que Bechet a fini par dire oui, « Moi aussi, j'aurais bien aimé être le Roi des Zoulous, tous les enfants avaient envie de ça. » Ça n'a rien de dégradant, c'est la liesse populaire. C'est un carnaval, quoi, voilà. Simplement, quand on tombe dans des périodes tendues, comme à l'époque... comprenne qui pourra.
Quoi qu'il en soit, en 1926, à Chicago, alors qu'il prend son envol, Louis Armstrong enregistre The King of the Zulus en compagnie de Kiddery au trombone, et nous avons retrouvé cette archive.
But one of me countrymen tell me there's a chitlin' rob going on here. Madam, fix me one out of those things you call chitlin', but I call them inner tube, and I play one of me native jazz tune.
« King of the Zulus, Louis Armstrong en 1926, qui malicieusement entame un dialogue avec un musicien jamaïcain revendiquant son identité afro-caribéenne. Louis Armstrong ne fut pas le seul à évoquer la tradition controversée du roi des Zoulous, puisque King Oliver fit de même dans Zulu Ball en 1923. Claire Julliard, puisqu'on parle justement de King Oliver, virtuose du cornet, cette petite trompette qui inspira tant Louis Armstrong, il serait bon de rappeler combien ce musicien, Joe King Oliver, fut un mentor pour Louis Armstrong.
Louis Armstrong a eu plusieurs mentors, en fait. Je crois que son premier père spirituel, ça a été Joe Oliver, qu'on appelait partout King Oliver, qui à l'époque était la grande figure du jazz débutant, qui n'est pas resté tout à fait dans les mémoires, mais bon, on en a donc un enregistrement ou deux. Et puis, à la Nouvelle-Orléans, c'était lui le roi. Donc, il le suivait, il l'écoutait, il l'admirait, jusqu'au jour où Oliver lui donnera des leçons de jazz et puis il finira par lui proposer de le remplacer pour quelques concerts. Alors là, pour Pops, c'est formidable, c'est un aboutissement.
Curieusement, ce King Oliver, personnage essentiel dans la vie de Louis Armstrong, n'est pas resté dans les mémoires. Comment vous expliquez cela ?
Parce que la plupart des musiciens ont sombré soit dans l'alcoolisme, etc. Enfin, entre la misère, la ségrégation... Mais lui, c'était rien de tout ça, c'est simplement, c'est bête comme les carrières artistiques dépendent de certains petits détails, mais enfin, il adorait les sucreries, il se gavait de bonbons, jusqu'à plus avoir de dents, bah, voilà, il a fini épicier.
Quand Louis Armstrong arrive à Chicago, il se retrouve avec Fight Marable, il est logé, nourri, blanchi, avec une baignoire particulière. Est-ce que vous avez inventé ce détail-là pour marquer l'évolution sociale de Louis Armstrong ?
La baignoire particulière, non, parce que enfin, c'est le signe de la richesse. Pour des enfants qui ont grandi avec des toilettes communes dans les cours, les douches, j'en parle pas, enfin, tout ça, ils se lavaient dans des baquets. Et puis, on lui dit, tu vas avoir un hôtel, une chambre, et tu auras ta baignoire particulière. Et au point qu'il dit, mais c'est quoi une baignoire particulière ? Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, il était très naïf quand il est arrivé à Chicago. C'était un jeune homme, puis de toute façon, il avait ce caractère un peu naïf aussi. Et après, il disait, ma baignoire particulière, je n'ai pas du tout inventé. Il l'a écrit. Pour lui, c'était énorme. Quand il s'est construit sa belle maison dans le Queen, il s'est fait une salle de bain magnifique, rutilante. Voilà, un rêve de pauvre.
En tout cas, c'est au sein de l'orchestre de King Oliver que Louis Armstrong débute sa carrière professionnelle. Et le voici donc le 6 avril 1923 à Richmond, dans l'Indiana, interprétant Deeper Mouth Blues avec le Creole Jazz Band de Joe King Oliver. Deeper Mouth Blues, le Creole Jazz Band de King Oliver avec le jeune Louis Armstrong au cornet, il n'a alors que 22 ans. Claire Julliard, Deeper Mouth Blues nous ramène à tous les surnoms que portait Louis Armstrong. Je connaissais Pops, je connaissais Satchmo, mais pas Deeper. D'où vient ce sobriquet ?
C'est-à-dire que, alors, déjà, Pops, c'est papa, Pops, il appelait tout le monde Pops, on l'a appelé Pops, plus généralement, parce qu'après tout, il est le père de tout le jazz d'une certaine façon. Satchmo, ça vient de such a mouth, quelle bouche. Et Dipper, moi, je crois que c'est ça. On disait que sa bouche ressemblait à une sorte de petit sac fermé. Enfin voilà, ça vient de ça. Ça peut paraître aujourd'hui peut-être un peu méprisant tous ces surnoms, mais ils se donnaient tous des surnoms. Personne ne portait son vrai nom, Papa Tête d'œuf, etc. Tout le monde s'appelait Buddy la cocaïne. Enfin, c'était affectueux. Si quelqu'un qui n'avait pas de surnom, c'était qu'on ne l'aimait pas, quoi. Voilà.
Claire Julliard, je réalise que nous avons finalement assez peu évoqué les parents et la grand-mère de Louis Armstrong. Diriez-vous que Little Louis fut un enfant de la rue, laissé à l'abandon?
Bon, il a été adoré par sa grand-mère, qui l'a très bien élevé, qui lui a appris à bien s'habiller, il s'est bien habillé toute sa vie, n'est-ce pas? Puis il était très soigneux, il était toujours en train de s'éponger parce qu'il transpirait, il avait toujours ses petits mouchoirs. Mais il a vécu dans la rue, parce que les enfants vivaient dans la rue, parce que ces maisons de la Nouvelle-Orléans, qu'on voit qui paraissent jolies, tout en bois, elles étaient minuscules à l'intérieur, les enfants étaient dans la rue. Et après, il a été récupéré par sa mère, Mayanne, mais il vivait dans la rue parce qu'il travaillait, parce qu'ils étaient enfants, ils marchaient pieds nus tous. Bon, il a fini par chanter la nuit. Enfin voilà, il avait une vie et un parler des rues. Un parler presque intraduisible. Hein. Quand on entend, c'est un tel argot que c'est à peine compréhensible. J'ai beaucoup allégé dans mon livre parce que sinon c'est... Donc c'est aussi un enfant des rues. Mais il s'en serait jamais sorti sans cette bonne éducation de sa grand-mère. Et puis sa mère qui est un personnage quand même pas banal et puis qu'il a beaucoup aimé. Ça compte, ça, c'est même essentiel.
Même s'il la retrouve assez tardivement, Mayanne montre toute l'affection qu'elle a pour son fils. Elle est là, finalement, à des moments clés.
Oui, elle est là, elle n'a que 15 ans de plus que lui. Il faut comprendre aussi les conditions qui font qu'elle a été obligée de s'en défaire. Probablement, elle est allée travailler dans le quartier des prostituées. Bon, on a un peu caché ça à Louis, puis il n'avait pas tellement envie d'entendre parler. Et puis, quand elle l'a repris en main, elle était folle de cet enfant. Tout le monde était fou de Louis Armstrong. Elle a vraiment tout accepté, fait tout pour lui. C'est vrai que c'est lui aussi qui était presque le chef de famille, hein, qui entretenait sa mère et sa petite sœur, qui gagnait de l'argent pour le foyer. Mais sa mère lui a beaucoup apporté. Et il y avait une passion entre eux, vraiment.
Dans votre roman, vous faites parler Louis Armstrong en 1959-1960. Il a alors 60 ans.
Oui.
Il se remémore sa jeunesse.
Oui.
Et il n'a pas l'air malheureux. C'était une posture, selon vous, ce sourire qu'on lui connaissait?
Alors, sur scène, je pense que c'est quelqu'un qui voulait tout donner. C'est ça aussi, Louis Armstrong. C'est quelqu'un qui donne tout et un artiste qui donne tout. C'est souvent le signe d'un grand artiste. Sa passion du jazz et du public l'a mené à une exubérance naturelle, peut-être forcée parfois un petit peu. Il en faisait trop, c'est dans sa nature, hein, d'en faire beaucoup, d'en faire trop. Ça lui a valu d'être parfois un peu traité de haut par les jazzmen plus cérébraux des années 60. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas une posture, c'est un désir de partager, c'est un désir d'amour, tout ça.
Miles Davis ne supportait pas le sourire docile de Louis Armstrong.
C'est pas docile, non, non. Il a toujours été comme ça. Sur les photos, quand il est enfant, il sourit toutes ses dents, il sourit à la vie et la vie lui a souri. C'est ce que je dis, parce que c'est une autre époque. Lui, il représente le jazz exubérant de la Nouvelle-Orléans, le jazz des années 20, le swing. Miles Davis, c'est tout à fait autre chose. Ils sont même peut-être construits un peu contre. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même rapport à la vie, je dirais. Non, c'est des caractères très différents. Il y en a un qui est le solaire, l'autre peut-être lunaire, je ne sais pas. Maintenant, on le comprend peut-être mieux aujourd'hui. Tout ce qu'il a surmonté, c'est avec ce sourire et cette volonté de foncer dans la vie.
Et en même temps, Miles Davis disait que tous les musiciens devaient quelque chose à Louis Armstrong.
Ah, c'est évident, c'est lui le patron, c'est lui le père de tout le jazz. Et heureusement qu'on lui a un peu rendu grâce et hommage parce qu'il le mérite. Il a tout créé, il a joué avec tous les plus grands, il s'est aventuré dans tous les styles. Bon, c'est pas rien. Hein.
Pour clore cette conversation, Claire Julliard, nous allons sortir de la période durant laquelle votre roman se déroule et nous retrouver beaucoup plus tard. En 1950, Louis Armstrong chante « C'est si bon » en compagnie du grand orchestre de Cy Oliver.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, say Seaborn, oui, oui.
C'est si bon, Louis Armstrong, le 26 juin 1950 à New York. Claire Julliard, c'était si bon d'évoquer sa jeunesse avec vous à travers ce livre que je recommande bigrement, Little Louis, votre roman paru aux éditions Le Mot et le Reste. Nous aurions pu encore parler très longtemps ensemble, oui, parce que hors antenne, nous avions commencé déjà à parler de la différence entre Miles Davis, oui, et Louis Armstrong, différence de vécu, deux mondes différents et puis deux manières de voir le monde.
Des milieux sociaux différents, enfin bon bref. Je vous remercie beaucoup de votre invitation en tout cas.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être passé nous voir aujourd'hui à l'approche du 50e anniversaire de la disparition de Satchmo,
oui, oui.
Louis Armstrong. D'ailleurs, vous n'avez pas écrit ce livre en pensant
à cet
anniversaire.
Non, absolument pas. Non, non, ça aurait été vraiment opportuniste. C'est... D'ailleurs, on le réédite puisqu'il est sorti juste avant le confinement, mais non, ça n'avait vraiment aucun rapport.
Certes, il eût été plus judicieux de programmer cette discussion la semaine prochaine pour nous rapprocher du 6 juillet 2021, donc le 50e anniversaire de la disparition de Louis Armstrong. Mais comme nous serons à Vienne pour la célébration du 40e festival Jazz à Vienne, nous tenions à vous inviter aujourd'hui.
Et encore merci.
Et donc la semaine prochaine, c'est un écho de la soirée africaine de Jazz à Vienne que nous vous proposerons avec Salif Keïta, Julia Sarr et Kezia Jones. Notons d'ailleurs que le festival se poursuit jusqu'au 10 juillet avec Richard Bona et Alfredo Rodriguez, ouais, Martha High, l'ancienne choriste de James Brown, Manu Katché, Wynton Marsalis et Cheikh Tidiane Seck, entre autres. L'émission du jour a été réalisée par l'attentive et rigoureuse Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.